Donc je vais vous parler de la laïcité, c'est un peu normal, hein, compte tenu du thème de ces journées, et je voudrais en fait revenir un petit peu, comme ça que je regrette pas du tout d'être venu hier et d'avoir écouté Benoît Falaise et Fabrice Dume. Comment ça marche, ça? Voilà. Et je vais revenir sur un débat qui s'est amorcé. La question des qualificatifs de la laïcité. Laïcité ouverte, laïcité fermée, comment la qualifier, etc. Et je vais revenir sur une mise en garde qu'a faite Benoît Falaise, qui est « gardez-vous ». Vous vous rappelez, c'était hier, hein, « gardez-vous de poser le problème en ces termes, laïcité ouverte, laïcité fermée, etc. » Alors, je suis à la fois d'accord et pas complètement. Enfin, ça dépend ce qu'il veut dire. Ça aurait été intéressant qu'il le développât un peu. Je pense, avec lui, que ce débat entre laïcité ouverte ou laïcité fermée, notamment, est un débat qui est extrêmement mal formulé et qu'il vaut mieux éviter ces épithètes. Il vaut mieux les éviter parce que elles sont floues. On ne sait pas trop ce que c'est que la laïcité ouverte, on ne sait pas trop ce que c'est que la laïcité fermée. Il vaut mieux les éviter parce que elles appartiennent à un langage qui est un langage de la valorisation ou de la dévalorisation. Hein. Ceux qui parlent de laïcité ouverte sont en général favorable à ce qu'ils appellent la laïcité ouverte. Et ceux qui dont on dit qu'ils sont favorables à une laïcité fermée ne disent jamais qu'ils sont pas favorables à une laïcité fermée parce que c'est relativement péjoratif de dire des choses comme ça. Donc vous voyez, là, il y a une façon de effectivement essayer de rentrer dans ce débat-là, et là, je suis d'accord avec Benoît Falaise, qui me semble pas tout à fait intéressante parce qu'elle ne dit pas grand-chose et parce que elle pose d'emblée des jugements de valeur implicites. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut éviter de qualifier les différentes conceptions de la laïcité. Elles existent, c'est un fait. En moment de l'affaire du voile, la première en 1980, oui c'est ça, en 1989, lorsque a éclaté cette première affaire ou ces premières affaires, on en a parlé hier, le Conseil d'État a donné un avis. Hein, l'avis était quand même principe. Le principe est que le port de signes religieux n'est pas contraire à la laïcité. C'était bien une certaine conception de la laïcité fondée, d'après le Conseil d'État, sur le droit. Lorsque la loi de 2004 a été votée, hein, en interdisant les signes ostensibles, elle a pris la position exactement contraire. Il y a donc bien deux, au moins, conceptions de la laïcité. Donc, c'est intéressant d'essayer de qualifier, en trouvant effectivement des qualifications peut-être plus analytiques, plus descriptives, qui permettent de rendre plus intelligibles les position en présence, qui permettent entre elles aussi le débat, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus que ces qualifications soient, connotées d'une manière ou d'une autre, soit de façon méliorative, soit de façon péjorative, hein, mais qu'elles essayent au contraire de rentrer dans la logique des conceptions en présence et essayer d'une certaine façon au moins de se mettre d'accord sur les désaccords qu'elles ont entre elles. Hein. Ça me semble une des conditions du débat du débat démocratique sur cette question-là. Et s'il ne peut pas y avoir de débat démocratique sur la laïcité, vous reconnaîtrez que c'est un sacré paradoxe, puisque on ne cesse de dire que la laïcité, c'est précisément ce qui permet le débat. Il faudrait donc aussi qu'elle puisse être normalement l'objet du débat, mais un objet un petit peu plus dépassionné, si je puis dire. De la même façon, donc, j'aurais à me démarquer de ceux qui ont tendance à rentrer dans le débat en disant qu'il ne doit pas avoir lieu. Hein. Il y a un certain nombre de mes collègues universitaires, philosophes, je pense notamment à Catherine Kinsler, je pense à Henri Pénard-Ruiz, qui disent il ne faut pas qualifier la laïcité, il y a la laïcité, point, sans adjectif. Hein, dès l'instant, c'est une façon de prendre position dans le débat, mais en disant il ne faut pas qu'il ait lieu, il y a quelque chose là qui me semble paradoxal. Donc je vais essayer au fond de caractériser de mon point de vue, hein, au moins, disons, deux grandes conceptions en présence qui me semblent centrales dans la discussion publique aujourd'hui, dans même les polémiques publiques aujourd'hui, et qui, d'une certaine façon, s'affrontent. Mais je vais essayer de le faire. Alors, en me situant d'un point de vue philosophique, je suis philosophe de formation, donc je vais me situer d'un point de vue philosophique, c'est-à-dire en essayant quand même de rentrer dans la logique de chacune d'entre elles, hein, donc de façon non polémique, mais tout en assumant effectivement, tout à fait clairement, que de ces deux conceptions qu'ils affrontent, il y en a une qui a mes préférences. Et je vais essayer de vous dire pourquoi elle a mes préférences, mais sans vouloir, en quelque sorte, défigurer ou caricaturer l'autre. Alors là, la première conception, on pourrait l'appeler une conception... alors ça, c'est une formulation que j'emprunte notamment à au sociologue des religions Philippe Portier. Il dit que c'est une position exclusiviste. C'est-à-dire qui se caractérise par, c'est ce qu'on appelle d'ordinaire, mais mal, effectivement, là-dessus Benoît Falaise a raison, la laïcité fermée. Hein. La position que Portier appelle exclusiviste, hein, elle se caractérise notamment par son hostilité ou sa méfiance vis-à-vis de certaines formes d'expression du religieux dans l'espace social, et notamment à l'école. Hein. Et puis d'autre part, il y aurait, ou il y a, la conception que Philippe Portier appelle inclusiviste, hein, Benoît Falaise a parlé aussi de laïcité inclusive, qui est, elle, davantage sensible aux singularités culturelles, aux singularités religieuses des personnes. Alors, c'est une façon déjà qui me convient beaucoup mieux. Hein, ces deux adjectifs me conviennent mieux relativement que fermé et ouvert. Hein, mais ils me conviennent pas non plus complètement parce qu'ils n'évitent pas en quelque sorte le jugement de valeur implicite. Hein. Les partisans de la laïcité exclusive ne se disent jamais exclusivistes eux-mêmes. Hein, c'est évident. Il faudrait peut-être les caractériser autrement. Et c'est très difficile de les caractériser autrement. Alors je dirais, quant à moi, en tout cas du point de vue philosophique qui est le mien, caractériserais volontiers une des deux conceptions en présence, celle qu'on appelle d'ordinaire exclusiviste, universaliste, républicaine, etc. Je la caractériserais de républicaine ou de néo-républicaine, parce qu'elle s'énonce souvent au nom des valeurs de la République, des valeurs de la République elle-même, de la restauration de la laïcité républicaine, etc. Hein, c'est la façon dont elle a tendance à s'auto-désigner. Alors ça me gêne aussi un peu parce que il me semble que l'autre est aussi républicaine, d'une certaine façon, conceptuellement que la première, mais enfin, bon, c'est une pure convention. Cette conception républicaine, elle est représentée en France, alors on a parlé hier de Finkielkraut, oui, marginalement, Finkielkraut me semble avoir une position un peu singulière vis-à-vis de ces choses-là. Bon, la laïcité, à mon avis, n'intéresse pas beaucoup Finkielkraut, c'est les questions de la langue qui intéresse plus que la question de la laïcité. Elle a été représentée effectivement à un moment par Régis Debray en 1989 au moment de l'affaire du voile, et c'est vrai, là-dessus Benoît Falaise a tout à fait raison, que Régis Debray a évolué dans sa conception des choses, et elle est encore aujourd'hui représentée notamment par les philosophes dont je parlais tout à l'heure, Henri Pénarus, Catherine Kinsler, Charles Coutel, des gens à qui d'ailleurs on doit, en termes de travaux philosophiques et compte tenu de leur orientation aussi, un certain nombre de résultats tout à fait intéressants. Notamment, ils ont beaucoup travaillé sur Condorcet, ils ont exhumé beaucoup d'écrits de Condorcet, ils les ont commentés, ils ont donc apporté, ils ont apporté quelque chose de ce point de vue-là au débat. Et puis l'autre conception qui est celle qui a ma préférence, je la nommerai tout à l'heure, disons qu'elle me semble, alors elle est effectivement contraire, elle se rapprocherait plus de ce que Porti appelle la laïcité inclusiviste, et elle me semble pouvoir être théorisée à peu près adéquatement à partir de la philosophie politique de John Rawls, philosophe américain dont vous avez certainement entendu parler, peut-être lu les écrits, et dont le livre fondamental, Théorie de la justice, a été publié en 1972. Alors, ce que je vais essayer de faire, si vous voulez, dans cette dans cette intervention, c'est trois choses. Hein. Premièrement, essayer de caractériser philosophiquement, si j'ose m'exprimer ainsi, essayer de caractériser le courant néo-républicain de la laïcité. Et encore une fois, sans lui faire, comme on le fait parfois, de procès d'intention idéologique, en essayant de rentrer dans sa logique interne. Dans un deuxième temps, ce que j'essaierai de faire, c'est de discuter de façon critique ce point de vue néo-républicain, et en expliquant pourquoi je pense préférable de lui préférer une autre conception de la laïcité à partir de John Rawls. Et puis dans un troisième temps, parce que je trouve que les discussions sont là-dessus très intéressantes, je voudrais examiner les objections qu'on peut faire à ma propre approche, et qu'on a faites d'ailleurs, hein, à ma propre approche, et essayer de répondre, comme je le peux, à ces objections. De sorte que, au bout du compte, vous puissiez vous faire, si je puis dire, votre religion sur ces questions-là. Voilà. Alors, évidemment, je vais présenter les choses de façon un peu orientée, mais en essayant d'être intellectuellement le plus honnête possible. Alors, pour ce qui est de, premier point, de la laïcité qu'on peut appeler, mais encore une fois par pure convention, parce que je ne trouve pas d'autres qualificatifs plus précis, mieux adaptés, qu'on peut appeler néo-républicaine. Alors, notamment ces théoriciens, disons néo-républicains de la laïcité, ils se sont très rapidement prononcé, notamment contre le voile à l'école. Je vous rappelle qu'en 1989, en novembre 1989, le Nouvel Observateur, à l'époque ça s'appelait encore comme ça, publie une tribune de quatre personnes, donc Alain Finkielkraut, effectivement, Régis Debray, cinq personnes, Elisabeth Badinter, qui fait aussi partie tout à fait de ce courant-là, Catherine Kinsler, dont je parlais tout à l'heure, professeure de philosophie à l'Université de Lille 3, et Elisabeth de Fontenay, qui était professeure de philosophie à l'Université parisien, et tribune qui s'appelait « Prof, ne capitulons pas », et qui disait « Admettre le voile à l'école, c'est le Munich de l'école républicaine ». C'est une position très très claire. Alors, ils ont avancé, effectivement, de multiples arguments pour justifier cette position, mais ce qui m'intéresse ici, j'insiste là-dessus, c'est l'orientation philosophique générale qui donne sens à ces arguments. Et cette orientation me semble être la suivante. Elle consiste à dire qu'au fond, qu'est-ce que ça veut dire que la République, et donc que l'école, vraiment qu'il y a une relation homothétique entre l'État républicain et l'école républicaine, et donc entre le citoyen et l'élève, en quelque sorte. Donc, si l'État républicain est laïque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est, et l'école donc, qu'elle est indifférente aux différences. L'État, comme l'école, n'ont à connaître que des citoyens, des élèves. Or, les citoyens ou les élèves sont des individus abstraits. Je suis toujours dans ce qui me semble être la logique de leur argumentation. C'est-à-dire que leur conférer le statut de citoyen, c'est leur reconnaître l'égalité, c'est-à-dire c'est refuser de les considérer dans leurs déterminations concrètes, sociales, familiales, géographiques, culturelles, religieuses, etc., par lesquelles, certes, ils se différencient et ils s'opposent. Mais on va mettre, en quelque sorte, la position néo-républicaine, c'est-à-dire on va mettre entre parenthèses ces différenciations, ces oppositions. Et de la même façon, effectivement, que l'État républicain aurait à le faire vis-à-vis des citoyens, l'école républicaine n'aurait à connaître que des élèves qui devraient être, au fond, aussi peu déterminés dans l'espace scolaire que les citoyens le sont dans l'espace politique. Un des représentants les plus éminents, il y a une vingtaine d'années de ce courant, maintenant non parce qu'il est mort, ce qui a empêché de continuer évidemment, c'est Jacques Muglioni, doyen de l'inspection générale de philosophie, qui dans un texte disait très fortement « l'expression « parent d'élève » est un non-sens ». Jacques Muglioni disait « je connais des parents d'enfants, je ne connais pas de parents d'élèves ». Les élèves n'ont pas de parents. Ce sont des espèces de voyageurs sans bagages, sans passé, sans famille, etc. Ils sont en quelque sorte abstraits dès l'instant, abstractisés, dès l'instant qu'ils rentrent dans l'univers scolaire, qu'ils pénètrent à l'intérieur des murs de l'école. Alors ce que je voudrais dire, c'est que cette position que souvent on peut penser et qui peut prendre parfois des tours conservateurs ou néo-conservateurs, ne l'est pas du tout nécessairement. Des gens comme Catherine Kinsler, Régis Debray évidemment, Elisabeth Badinter, Muglioni, c'était son cas aussi, Henri Pénaruis, qui par ailleurs est au front de gauche, ce sont des gens de gauche, qui peuvent parfois même être très engagés à gauche. Et ils pensent leur position, alors moins sans doute Alain Finkielkraut, ils pensent leur position, mais qu'il a dû l'être à un moment donné, dans une vie antérieure, enfin c'est compliqué. Bon, on va pas commencer à parler de Finkielkraut, c'est compliqué Finkielkraut. C'est-à-dire que tous ces gens-là pensent cette position que je viens de résumer comme correspondant à un idéal d'émancipation. Donc comme correspondant à un idéal progressiste d'émancipation. L'accès à la citoyenneté correspond, d'après eux, à une émancipation des individus qui, par la citoyenneté, sont en quelque sorte promus à une espèce d'égale dignité universelle, indépendamment de ce qu'ils sont en particulier. C'est une pensée assez topique de la Révolution française, cette histoire-là, ou même de la pensée républicaine, de la philosophie républicaine française, Montesquieu ou encore plus Rousseau. Et de la même façon, l'obligation d'enlever le voile, par exemple, serait justifiée pour ces néo-républicains par l'effort d'effacer chez l'élève tout marqueur de particularité. C'est-à-dire que cette volonté, cette injonction « enlève ton voile », procéderait de la volonté de ne pas assigner l'enfant contre le projet émancipateur de l'école à son milieu d'origine. Donc il y a effectivement une orientation là qui se veut, qui se pense très volontiers, pas nécessairement, pas toujours, mais très volontiers, comme progressiste et émancipatrice. Comment est-ce qu'on peut discuter cette thèse, qui est, d'une certaine façon, qui est assez forte, il faut bien le dire, qui est assez forte et qui renvoie, encore une fois, à toute une tradition républicaine, et la pensée de la philosophie républicaine marquée depuis le XVIIIe siècle. On peut souscrire à l'idée que l'État ou que l'école n'a pas à connaître de différence, d'une certaine façon, entre les citoyens ou entre les élèves. Effectivement, que s'il est différent, on peut comprendre la thèse sur laquelle se fonder sur les différences serait introduire ou risquerait d'introduire précisément de la discrimination. La question que je me pose personnellement, et c'est en quoi cette thèse ne me convainc pas tout à fait, c'est en quoi cela contraint-il les individus à ne pas afficher ces différences ? C'est-à-dire que, certes, l'exigence républicaine élémentaire, d'une certaine façon, c'est bien que l'école traite, par exemple, également, une jeune fille musulmane voilée, sachant que toutes les filles musulmanes ne sont pas voilées, et une jeune fille musulmane ou non musulmane non voilée. Et que l'école, les enseignants, l'institution, l'administration scolaire traitent ces deux jeunes filles exactement de la même manière, quelles que soient les différences qu'elles affichent. La question que je pose, c'est en quoi cela doit-il affecter ces différences elles-mêmes, à supposer qu'elles existent. Et il me semble que si on pose la question comme ça, la réponse néo-républicaine serait que, au fond, l'universalisme dont il se réclame, l'universalisme républicain dont il se réclame, ne renferme pas seulement une règle qui norme le rapport à de l'État ou de l'école aux citoyens ou aux élèves, hein, que cet universalisme prétend aussi prescrire au fond le comportement des citoyens ou des élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée, c'est que cet universalisme énonce à quelles conditions individuelles, éthiques, il faut satisfaire pour que ils satisfassent au statut de citoyen que l'État leur reconnaît. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein. Je veux dire que c'est une façon au fond, il suppose, je vais dire les choses un peu autrement, ce que Claude Nicollet, qui est un historien du républicanisme, qui était un historien connu, qui lui-même d'ailleurs était plutôt dans ce courant-là, a appelé, en la valorisant, une laïcité intérieure. Ou ce que une philosophe actuelle française, mais prof en Angleterre, Cécile Laborde, appelle, d'un point de vue un peu plus critique, une laïcité de conscience. Je suppose que la laïcité, ce n'est pas simplement une détermination de l'État, ça doit être une détermination des individus. Hein? La citoyenneté, ce ne serait pas seulement un statut juridique reconnu par l'État et exigeant de la part de l'État, en vertu du principe d'égalité, la non-acception des personnes particulières, des individus, hein, que la citoyenneté correspondrait, au fond, devrait correspondre à une sorte d'effort moral des citoyens pour dépasser leurs conditions particulières d'existence. Et que la laïcité, d'une certaine façon, serait enrôlée dans ce programme-là. J'ai noté hier une citation qu'a donnée Fabrice Dume, extrait donc d'un texte de la DGESCO de 2010, Discrimination à l'école. Hein, et ce texte dit « La laïcité, hein, au fondement de la République, ne nie pas les différences personnelles, mais affirme des valeurs communes au-delà des appartenances particulières. » On est bien complètement, de certaine façon, cette logique-là. Ce qui est demandé aux individus, c'est de pouvoir aller au-delà, par une espèce d'effort éthique personnel, hein, je veux pas jusqu'à parler d'ascèse, mais au moins d'effort éthique personnel, d'être capable d'aller au-delà de leurs intérêts ou de leurs déterminations particulières. Et le citoyen par excellence, c'est pas simplement un statut juridique, c'est celui qui serait capable de faire sur lui-même cet effort-là. Hein, le bon citoyen, en tout cas. Là, on est, d'une certaine façon, dans la tradition de Rousseau, complètement. Hein, vous lisez le livre 1 de l'Émile, à un moment donné, Rousseau dit, il n'y a plus d'éducation civique, c'est fini. Dans l'Antiquité, il y avait l'éducation civique. Hein, il donne l'exemple de cette mère de famille qui avait ses 5 enfants partis à une bataille, je sais pas, contre Sparte, contre les Perses, contre Navarre, et qui dit, alors, et on lui dit, ma pauvre dame, enfin, on lui dit pas comme ça, on est dans l'Antiquité, on parle autrement, vos 5 enfants sont morts. Et elle dit, mais c'est pas ce que je demande. Est-ce qu'on a gagné la bataille? Et Rousseau conclut, voilà la citoyenne. Vous voyez, hein, voilà, c'est une émancipation, hein, où je n'y connais pas. C'est la raison pour laquelle cette conception au fond de la laïcité et de la citoyenneté, hein, donc comme conception morale, éthique, hein, ou politico-éthique, si je puis dire, et tributaire de ce que John Rawls, dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'une manière générale la philosophie politique américaine, appelle une conception du bien, une conception de la vie bonne, hein, c'est-à-dire une conception de la façon dont il convient de mener sa vie et de se situer par rapport à un certain nombre de valeurs. Hein, la citoyenneté serait il vaut mieux vivre selon cet idéal d'universalité de la citoyenneté que de vivre replié sur soi-même. hein, ou que de ne penser qu'à son intérêt privé. Il y a une supériorité morale de cette conception sur l'autre. Ce serait une conception de la vie bonne que l'État devrait pouvoir ou devoir privilégier. Et au fond, cette thèse s'explicite, à mon avis, en trois moments. Hein. Premier moment, donc, je viens de le dire, hein, ce néo-républicanisme repose sur l'idée d'une sorte de supériorité morale de la vie publique sur la vie personnelle, du citoyen sur l'individu privé. Au fond, c'est une façon de réactiver un certain idéal aristotélicien. Deuxièmement, pour la pensée néo-républicaine, en tout cas actuelle en France, cette supériorité morale de l'existence politique tient à la possibilité qu'ont les individus de s'élever du particulier vers l'universel, c'est-à-dire leur capacité, dans le langage de ce néo-républicanisme, leur capacité à s'émanciper. Et troisièmement, la laïcité est l'expression même de cette possibilité émancipatrice. Et donc la laïcité correspond à un idéal moral, selon ce point de vue, et ne peut se réduire à la reconnaissance par l'État du statut égal de toutes les croyances ou toutes les options spirituelles. C'est-à-dire il ne peut pas se résoudre ou se réduire à la seule dimension juridique de la définition de la citoyenneté. Là, voilà, j'ai essayé de restituer un peu la logique et ce que je crois être les présupposés de cette conception. Alors, je voudrais maintenant la discuter, et pour la discuter, je dirais d'emblée que je m'inscris personnellement plutôt, non pas dans une laïcité comme conception du bien ou de la vie bonne, mais comme dans une laïcité comme conception de ce que Rawls appelle une conception du juste. Hein. Et en assumant une des thèses essentielles de la philosophie politique de Rawls, à savoir, dans ce domaine-là, hein, la primauté pour un État démocratique du juste sur le bien, c'est-à-dire au fond, la primauté du droit sur la morale. Et cette thèse donc, que je vais essayer de développer, elle-même, on peut la justifier en trois moments. Hein. Premièrement, ça consiste à dire quoi ? Ça consiste à dire, effectivement, chaque personne, chaque individu a, dans un État démocratique, une conception particulière du bien, une conception particulière de la vie bonne, des valeurs, qui sont personnelles, d'une certaine façon, personnelles à lui comme individu, ou à sa famille, ou à son groupe social, ou à ses différentes affiliations, qui sont d'ailleurs tout à fait libres. Hein. Et puis, conception qui peut être très majoritaire, qui peut être très très originale, qui peut rester la même tout au long de la vie, dont on peut changer, quoi, ça, peu importe. Mais c'est une conception particulière de ceux qui, pour chacun, donnent sens à sa vie. Nous en sommes, d'une certaine façon, tout cela, je peux favoriser une vie de contemplation, de méditation, de spiritualité, je peux au contraire penser que la façon de satisfaire mon idéal de vie, c'est de m'investir dans la vie politique, syndicale, associative, militante, etc. Je peux faire un peu les deux, je peux passer de l'un à l'autre, etc. Ça, c'est la première proposition. C'est le constat que dans un État démocratique, les conceptions du bien sont plurielles. Elles sont multiples. Deuxième point, un État juste, qu'est-ce que c'est ? C'est un État qui traite ses citoyens comme des égaux. Jusqu'à présent, je suis toujours sur le même chemin que la première position, que celle du néo-républicanisme. Et tous ces citoyens et d'un État juste, démocratique, sont traités comme des égaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont traités selon la règle de ce que Rawls appelle la priorité de la liberté. Règle qu'il énonce comme suit, je cite, « Chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de liberté de base, égal pour tous, compatible avec un même système de liberté pour tous. » Troisièmement, il résulte des deux premiers points que l'État ne peut être juste qu'en étant absolument neutre par rapport aux différentes conceptions du bien personnel de chacun. C'est-à-dire en refusant lui-même d'afficher publiquement une conception du bien. Et c'est là où on voit que la deuxième position se distingue de la première, dont j'ai essayé de montrer que vous ne pouvez pas faire l'économie d'afficher, au fond, la laïcité comme un certain idéal moral, hein, d'universalité et d'accès à l'émancipation. Et c'est, au fond, dans cette stricte neutralité de l'État que consisterait alors la laïcité qui, deux points de vue, donc de la position que je défends, ne peut pas se réclamer philosophiquement d'un idéal moral, d'un idéal éthique. Parce que se réclamer d'un idéal moral, d'un idéal éthique, supposerait que certaines croyances ou que certains modes de croyance soient en quelque sorte officiellement, publiquement, privilégiés par rapport à par d'autres. Pour dire les choses autrement, on a deux conceptions de la laïcité dont on pourrait dire que la première est une conception, excusez ces mots philosophiques, donc barbares évidemment, est une conception herméneutique, et que la deuxième est précisément une conception non herméneutique de la laïcité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que la première conception suppose une interprétation des conditions auxquelles il faudrait satisfaire pour être un vrai citoyen, pour être un homme authentiquement libre, etc., etc. Alors que la deuxième conception, d'une neutralité au fond beaucoup plus radicale, se refuserait à faire des interprétations de ce genre. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une interprétation non herméneutique de la laïcité et de la citoyenneté. Dire selon la première conception, il est clair, par exemple, qu'on ne peut être véritablement libre que si on est suffisamment instruit. Ce qui justifierait effectivement le fait d'enlever le voile avec l'idée, quand tu auras appris à l'école, tu pourras le remettre ou pas le remettre si tu veux. Selon la deuxième conception, on n'a pas déterminé de quel degré d'instruction il faut justifier pour qu'un choix individuel soit réputé autonome ou non. Et la deuxième conception ne présuppose pas, par exemple, que le fait de porter un voile est en soi un signe d'aliénation plus important que le fait de ne pas en porter. Elle ne présuppose pas le contraire. Elle ne présuppose rien. Elle est non herméneutique. C'est-à-dire que là, on a affaire à une laïcité qui s'interdit, on aurait affaire à une laïcité qui s'interdit radicalement d'intervenir dans le domaine hétérogène des valeurs qui coexistent dans une société pluraliste. Pour dire encore les choses autrement, alors simplement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire au fond, la laïcité n'est pas une valeur, c'est un cadre juridique. Enfin, à l'opposition, d'une certaine façon, entre ces deux conceptions, elle pourrait être là. Pour la première, la laïcité est une valeur, mais c'est une valeur universelle. C'est très compliqué de savoir ce que c'est qu'une valeur universelle. Et les conditions auxquelles on pourrait se mettre d'accord sur l'universalité des valeurs. Pour la seconde acception, la seconde conception, qui a plutôt ma préférence, hein, la laïcité, c'est un cadre juridique. C'est un cadre juridique qui précisément autorise les individus à adopter des valeurs différentes. Et donc la deuxième conception est telle que, normalement, on n'a pas à se prononcer sur le système des valeurs des individus. C'est exactement, me semble-t-il, la position du Conseil d'État en 1989, hein, qui me semble, si je puis dire, Rawlsienne. Alors, celui qui a été l'auteur de l'avis du Conseil d'État, David Kessler, qui est lui-même agrégé de philosophie, avait peut-être lu Rawls, hein, en 1989, c'est même très probable. Mais je ne sais pas. Donc ça sert à rien de tirer des plans sur la comète là-dessus. Mais il a exactement cette position, en disant, après tout, l'État laïque dit, c'est pas à l'État de déterminer quel est le sens d'un signe que porte un individu. Est-ce que c'est un sens religieux, pas religieux, etc. La seule chose qu'on puisse demander, c'est que cette liberté soit, comme dit Rawls, compatible avec le système des libertés pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de menace, qu'il n'y ait pas de prosélytisme, qu'il n'y ait pas de pression, et puis aussi que ça, comment dirais-je, satisfasse aux nécessités d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas les enseignements pour autant, etc. Mais tant que l'élève ne s'est pas comporté objectivement de façon à menacer les autres, à faire pression ou à refuser les enseignements ou à les contester, on n'a pas à empêcher cette liberté. On est exactement dans cette position-là. Hein. C'est-à-dire que, au fond, on pourra encore qualifier les choses autrement en disant que, et toujours dans le langage de la philosophie politique de Rawls, en disant que la première conception relève plus d'une laïcité substantielle, c'est-à-dire qui donne un contenu substantiel qu'il soit philosophique, moral, politique, civilisationnel, à l'idée laïque, alors que la laïcité dans l'autre sens du terme, serait davantage procédural. Voilà une très très bonne, pour moi, façon de qualifier les choses. Non pas ouverte ou fermée, non même pas même exclusiviste ou inclusiviste, mais substantielle ou procédural. Au moins, il n'y a pas de jugement de valeur implicite dans les deux. Et ceux qui sont substantiels dans cette histoire peuvent se revendiquer comme tels, et ceux qui sont procéduralistes peuvent aussi se revendiquer comme tels, et donc discuter ensemble et se mettre d'accord sur leurs désaccords. Procédure, ça veut dire quoi ? Procédural, ça veut dire simplement que c'est une laïcité qui ne reposerait sur aucun idéal éthique, sur aucune conception de l'homme, aucune conception morale, politique, anthropologique, métaphysique même. Elle n'énonce aucune condition substantielle auxquelles les individus pourraient être considérés devraient satisfaire pour être considérés comme libres de leur choix. Elle définit simplement des règles du jeu qui permettent à chacun, dans un état démocratique qui suppose la coexistence pacifique d'opinions plurielles, de vivre ensemble, comme on dit. C'est la raison pour laquelle cette conception me paraît plutôt supérieure à l'autre, parce qu'elle est au fond, me semble-t-il, plus facilement et plus rigoureusement respectueuse des droits des individus. Elle prend plus facilement en compte la diversité tout en étant elle-même une conception universaliste, c'est-à-dire sans tomber dans le risque, au fond, du relativisme, risque que souvent les adversaires de cette conception dénoncent très, 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 très souvent. Il me semble, je le disais tout à l'heure, que le Conseil d'État se situait dans cette tradition. Il me semble que la loi 2004 tourne le dos à cette tradition. C'est la raison pour laquelle je préférais personnellement l'avis du Conseil d'État à la loi 2004. Mais il me semble aussi que la loi de 1905 est absolument conforme à cette orientation procédurale de la laïcité. Elle dit pas grand chose sur le contenu substantiel de l'idéal laïque. Elle dit simplement la République garantit la liberté de conscience et assure le libre exercice des cultes. Et elle ajoute sous les seules restrictions de l'ordre public. Et j'insiste sur l'adjectif, sous les seules restrictions. Aucune autre restriction ne peut être invoquée pour limiter la liberté des individus. Alors, il me reste encore un peu de temps. S'il reste la troisième partie, c'est-à-dire que cette position que je défends, que j'ai défendue dans des colloques, dans des écrits, etc., a elle-même été discutée, et je trouve ça très intéressant qu'elle soit discutée, et je voudrais examiner un peu un certain nombre de ses objections. Voir que, parce que donc on peut lui objecter un certain nombre de choses, il faut donc énoncer ses objections, puis je voudrais essayer de vous dire comment j'essaye de répondre à ces objections. La première de ces objections, elle a été notamment formulée par un professeur de philosophie de l'université de Saint-Étienne, Philippe Forêt, donc qui appartient aussi à cette maison, puisqu'il appartient en tout cas au laboratoire éducation, culture et politique dont Françoise Lantôme est la directrice. Et Philippe Forêt écrit un livre. Alors Forêt s'écrit F-O-R-A-Y. Philippe, c'est le prénom, donc ça s'écrit comme le prénom. Et il a écrit en 2008 un livre que, personnellement, je trouve être un des livres les plus intéressant sur cette question philosophique de la laïcité, hein, la laïcité scolaire, autonomie individuelle et apprentissage du monde commun, hein, qui est paru donc en 2008 chez Peter Lang. Et Philippe Forêt est lui aussi critique vis-à-vis de la position néo-républicaine, mais il conteste au fond ce qu'il voit dans la position que je défends comme un juridisme, en quelque sorte, hein, comme un formalisme juridique trop trop fort. Et son argument, c'est le suivant. Et la laïcité, dit-il, c'est pas simplement ce qui permet de ne pas nous ressembler, c'est-à-dire qui prend en compte nos et qui accepte la libre expression de nos différences individuelles. Oui, bien sûr, c'est le cadre à travers lequel on peut ne pas se ressembler. On peut être croyant ou pas croyant et avoir un mode de croyance et une croyance particulière, et on peut changer de croyance, etc., etc. Donc, la laïcité peut nous permettre de ne pas nous ressembler, mais elle n'est pas que cela. elle est aussi, dit-il, ce qui doit nous rassembler. Hein. Ne pas nous ressembler, certes, mais nous rassembler. C'est-à-dire, elle doit permettre, au fond, la définition de valeurs communes ou la définition de ce que certains philosophes appellent un monde commun, un monde partagé. Hein. Ce que la sociologue Dominique Schnapper appelait elle-même assez joliment la communauté des citoyens. Et c'est une objection forte. Et si on regarde historiquement la formulation de l'idéal laïque, on voit que chez Buisson, dont il était question la dernière fois, chez Durkheim, mais même avant, dès le milieu du XIXe siècle, chez Edgar Quinet, vous avez bien cette conception-là de la laïcité. La laïcité, c'est ce qui permet aux gens différents, non seulement d'être différents, mais de partager un certain nombre de valeurs communes que leur différence ne leur permet pas naturellement de partager. Alors, que répondre à cette objection ? Elle est compliquée, elle est dure, il est embêtant, Philippe Forêt, de me faire des objections pareilles. Je répondrai à la chose suivante. Je ne conteste pas, évidemment, je conteste pas. Je suis pas un anarchiste ou un. Je suis pas un libertarien. Hein, je conteste pas du tout la nécessité pour toute société de construire entre ses ressortissants un monde commun. Et je conteste pas du tout le fait que ce soit notamment à l'école de contribuer à la construction de ce monde commun. La question que je pose, c'est est-ce que c'est à la laïcité de le faire ? Et la réponse que je donne, c'est la suivante. Je veux dire, oui, en un sens, c'est à la laïcité de le faire, mais de façon, si je puis dire, négative. La laïcité définit les conditions négatives de ce monde commun. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que la laïcité est là pour dire quelles sont les conception commune qui serait contraire à la liberté individuelle. Elle est là pour empêcher, en quelque sorte, des valeurs particulières, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient autres, d'avoir un statut public et de s'imposer, y compris à ceux qui ne les partageraient pas. Vous voyez, ce qui constitue pour moi le propre de la laïcité, c'est qu'elle empêche le monde commun de devenir étouffant et de devenir liberticide. Alors quand la laïcité elle-même se veut être ce monde commun un peu étouffant et un peu liberticide, comme certaines tendances actuelles, là on est au comble du paradoxe. C'est sûr qu'il faut faire société, hein, que la société des individus, c'est Norbert Elias, qui parlait de société des individus, et dans société des individus, bon, c'est une société des individus, mais c'est quand même une société des individus. Donc il faut bien faire société. Mais il faut bien construire le lien social. Mais si la laïcité a un rôle à jouer dans cette construction, c'est en définissant à quelles conditions le monde commun recherché ne risque pas d'exclure ceux qui n'en partageraient pas les valeurs. Hein ? C'est-à-dire c'est en, au fond, définissant ou en empêchant de faire en sorte que se rassembler, exigence en soi légitime, n'impose pas trop de se ressembler, malgré soi, en quelque sorte. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, dans la loi de 1905, si on la lit attentivement, j'ai essayé de le faire, d'autres l'ont fait aussi, et personnellement, j'ai vu tout qui était du côté de la non-ressemblance, mais j'ai rien vu dans la loi de 1905 qui soit du côté du rassemblement. 1905 ne dit rien sur les valeurs qui doivent nous rassembler. Elle dit tout sur la liberté de conscience. Alors, il y a une deuxième objection, qui est la suivante, et que, au fond, les néo-républicains auraient raison de dire que la laïcité n'est pas qu'un attribut de l'État, qu'elle doit être aussi, à certains égards, un attribut des personnes. L'idée d'une laïcité intérieure est une idée qui est peut-être plus difficile à réfuter que cela. Pourquoi ? Parce que vivre dans un État laïque suppose nécessairement, pour les individus, quand ils sont religieux, un certain réaménagement personnel de leurs croyances religieuses, fait d'un minimum de, de distance critique vis-à-vis de cette croyance, de façon à pouvoir vivre ensemble et discuter avec ceux qui ne la partagent pas. Et c'est une objection effectivement assez forte. Et c'est un argument que développe notamment Henri Pénarvis dans un des nombreux livres qu'il a consacré à la laïcité. Il s'appelle « Qu'est-ce que la laïcité ?» et qui date de 2003. Et en ce sens, hein, l'idée d'une laïcité de conscience ou d'une laïcité intérieure, elle aurait une valeur, une pertinence qu'il faut admettre. Hein. Et en ce sens, un État laïque, effectivement, ne saurait, au fond, être rigoureusement procédural ou procéduraliste. Il ne saurait être rigoureusement neutre, pour dire les choses autrement, et il serait, au fond, légitimement conduit à malgré tout valoriser les formes modérées d'expression de la croyance religieuse par rapport à des formes excessives ou radicales. C'est vrai d'une certaine façon. Je reconnais la valeur de cette objection et je reconnais, mais d'ailleurs Rawls le reconnaît lui-même, hein, au cours des discussions qu'il a eues avec d'autres philosophes dans les années 70, qu'un État, même un État démocratique organisé selon ce qu'il appelle le principe de justice, ne pouvait pas faire l'économie de ce qu'il appelle « a thin theory of good », une étroite théorie du bien. Malgré tout, un État même purement procéduraliste est obligé de valoriser un certain nombre de comportements ou un certain nombre d'idéaux du vivre ensemble par rapport à l'autre. Reste que je crois que effectivement il faut prendre ça au sens de étroite théorie du bien, c'est-à-dire pas au sens de normes éthiques extrêmement contraignantes du comportement des individus. Hein. Évidemment, ça veut dire au fond que dans un État démocratique, il vaut mieux que les individus qui vivent dans cet État, que les citoyens qui vivent dans cet État, soient convaincus de la valeur d'une démocratie. De même, dans un État laïque, il vaut mieux que la majorité, voire la totalité des individus, partagent l'idée de la valeur du principe de laïcité. Mais à mon avis, on ne peut pas tellement aller au-delà de ça. Alors je crois que déjà, ça pourrait suffire à définir l'espace de ce que pourrait être une éducation à la laïcité, à l'école. Mais je crois qu'on ne peut pas tellement aller au-delà de ça, et on ne peut pas exiger des individus, des citoyens, qu'ils conforment leur comportement intérieur à un idéal laïque trop substantiellement déterminé. Je crois que si on le fait, ce que parfois, me semble-t-il, on a tendance à faire, il y a quelque chose qui est plus potentiellement menaçant pour les libertés individuelles que permettant les libertés individuelles. Voilà, donc j'ai essayé de... C'est comme ça que je réponds, peut-être de façon insatisfaisante à cette objection. J'ai essayé donc de caractériser à la fois les deux positions, les objections, et j'attends vos questions. Merci de votre attention.